Chapitre 35. Les hommes d'Outros affrontaient ceux qui se cachent dans les rues de Rogang. Face à une résistance inattendue, les officiers beuglaient ordre sur ordre, mais les vétérans n'avaient besoin de personne pour tailler en pièces des adversaires. Des adversaires qui sortaient toujours des bâtiments comme si leur réserve était inépuisable. Contre les tactiques rigoureuses des soldats, la hargne et l'imagination de ces loqueteux se révélaient curieusement efficaces. Si la mêlée devenait confuse, elle n'était pas si déséquilibrée que ça. Après l'étrange disparition de Ruva et Outros, Nietzsche s'accordait un moment de récupération. Ava était morte, ça ne faisait pas de doute, mais pourquoi Ruva avait-elle emporté son corps? Alors que le vacarme devenait assourdissant, Nietzsche tentait d'inspirer à fond. Devant elle, la statue brisée d'Outros gisait sur le dos, les yeux fixant le ciel. Pour faire tant de dégâts, Nietzsche avait puisé plus que de raison dans son don. L'important pour l'heure, c'était de reconstituer son énergie. Ensuite, elle irait soutenir ses amis qui risquaient de se faire massacrer. Son pouvoir au plus bas, il lui restait toujours ses couteaux. Dans la fureur du combat, un peu partout, les antiques soudards ne s'étaient pas encore aperçus de la disparition d'Outros. Presque mécaniquement, ils tranchaient dans le vif face à des ennemis courageux, certes, mais affreusement mal entraînés. Encore que les choses n'étaient pas si simples. S'ils subissaient de grosses pertes, les spectres n'étaient pas manchots et leurs adversaires payaient un lourd tribut. Habitués à se sacrifier, ceux qui se cachent comptaient bien finir victorieux. Certes, mais ils affrontaient des hommes mieux équipés qu'eux et de véritables militaires en plus de ça. Des duels sauvages se déroulaient partout, entre les bâtiments comme sous les arches majestueuses. Enragés mais lucides, les escrimeurs évitaient les gros fragments de colonnes ou de statues écroulées. Un soudard se campa face à Nietzsche et leva sa lame rouge de sang. À l'évidence, il croyait avoir affaire à une proie facile. Il frappa latéralement pour l'éventrer, mais elle esquiva, passa sous sa garde et lui enfonça un de ses couteaux dans l'entrejambe. Tandis que la lame remontait, déchiquetant les intestins, le type hurla à la mort. Puis il s'écroula, les deux mains plaquées sur le ventre. Au lieu de l'achever, Nietzsche le laissa agoniser en hurlant. À n'importe quel prix, elle devait inverser le cours de cette bataille et sauver ses amis. La terreur, après tout, était une arme comme une autre. Mra lâcha un rugissement qui parvint à couvrir le vacarme ambiant. Grâce au lien, Nietzsche capta qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Dans le feu de l'action, la panthère jubilait, enivrée par le goût du sang frais dans sa gueule. Du coin de l'œil, Nietzsche vit sa sœur Féline renverser un soldat et déchirer de ses griffes son épaisse cuirasse. Quand elle en eut fini avec cette nouvelle proie, Mra rugit de plus belle. D'autres félins s'étaient mêlés à la bataille. Une dizaine peut-être plus, qui terrorisaient les combattants adverses. À dire vrai, il y avait de quoi, parce que la mêlée tournait à la boucherie, et les panthères, mystérieusement, savaient épargner les hommes et les femmes en gris pour se concentrer sur les soudards d'Outros. Une lame dans chaque main, Nietzsche se mit elle aussi à faire des ravages. Désespérés, des hommes appelaient leur général à l'aide. En quête d'ordre, les officiers le cherchaient du regard, mais il n'était nulle part en vue. Le vent tournait. Dans les rangs désorganisés, des rumeurs commençaient à courir lors des brefs répits. Le général s'était enfui, voilà tout. Au bord de la rupture, les soldats combattirent avec tout ce qui leur restait de rage et d'énergie. À peine libérés des Is, ceux qui se cachent semblaient condamnés à mourir avant d'avoir pu savourer leur bonheur retrouvé. En avançant vers le palais, Nietzsche eut une pensée de colère et de chagrin. Coûte que coûte, elle allait rejoindre ses amis et les aider. Les défaites, elle ne connaissait pas et ça ne commencerait pas aujourd'hui. Profitant d'une courte accalmie, elle sonda son don. Bien qu'affaibli, il était là, et elle restait une puissante magicienne. La maîtresse de la mort sauverait autant de spectres que possible. Alors qu'elle passait devant le puits de la Slif, elle généra une petite boule de feu dans sa paume, puis elle s'immobilisa, évaluant la situation avant d'intervenir d'une manière décisive. Son plan arrêté, elle lança la boule sur un groupe de soldats. Trois d'entre eux furent carbonisés sur place. Pas de quoi triompher, car elle espérait bien mieux que ça. Puisant dans son don, Nietzsche tenta de générer une boule plus grosse. Dans son dos, un bruit étrange retentit, mélange bizarre de sifflements et de gargouillis. Une fois tournée vers le puits, la magicienne vit que le beau visage de vif argent de la Slif en émergeait. Un moment, elle n'en crut pas ses yeux.
Slif ?
Indifférente au vacarme de la bataille, la femme de vif argent riva les yeux sur Nietzsche.
Mais
Mais pourquoi se montrait-elle en cet instant précis ?
Sleaf, je t'ai appelé plusieurs fois.
J'ai entendu. Mais rien ne m'oblige à te servir. Cela dit, j'accepte ton marché. Dis-moi tout sur l'empereur Sulakan et nous voyagerons.
Pas maintenant, Sleaf. Nous parlerons plus tard.
Non, c'est maintenant ou jamais. Comme tu le désires, je te ramènerai à Serimundi et tu me diras tout sur Sulakan. Ce sont les termes du marché.
Nietzsche invoqua un bouclier pour se couper de la Sleaf, mais ça ne fonctionna pas.
Non, pas maintenant.
Respire.
Un bras de vif argent jaillit, entoura la taille de Nietzsche et l'attira dans le puits.